bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 9 juillet. Covid-19, l'alerte maximale proclamée à Séoul et sa couronne durant 2 semaines. Fukushima, l'AIEA inclut un expert sud-coréen dans son groupe d'inspection du rejet des eaux contaminées. La Corée du Sud dévoile sa stratégie K-Battery. Enfin cinéma, le festival du film fantastique de Bucheon maintient ses projections en présentiel. On commence par la crise sanitaire. Suite à une recrudescence très préoccupante du Covid-19, le gouvernement vient de relever le niveau de distanciation sociale à 4, le plus élevé selon le nouveau schéma, dans la région métropolitaine de Séoul, et ce, à partir de lundi prochain, pendant 2 semaines. C'est ce qu'a annoncé ce matin le Premier ministre lors d'une réunion du centre de gestion de crise. Kim Boo-geum a appelé les citoyens à annuler dès aujourd'hui tous les rassemblements privés. Quelques mesures supplémentaires. Il s'agit de fermer les lieux de vie nocturnes et de suspendre les mesures d'assouplissement accordées à ceux qui sont totalement vaccinés. En effet, le niveau 4 correspond à une grande vague de contamination qui nécessite l'alerte maximale. Il autorise les rassemblements privés de 4 personnes au maximum jusqu'à 18 heures et ceux seulement de 2 personnes après 18 heures. Par ailleurs, tous les événements et les manifestations, sauf celles à une seule personne, sont prohibés, alors que les mariages et funérailles ne sont ouverts qu'aux seuls membres de la famille. Les établissements à haute fréquentation, dont les restaurants et les cafés, pourront eux rester ouverts jusqu'à 22 heures. Les lieux de culte religieux devront eux organiser leurs offices en distanciel, tandis que les matchs sportifs se dérouleront sans public. En tant que chef de la cellule de crise, Kim Boo-geum a exprimé ses regrets de devoir soumettre encore la population aux nouvelles restrictions. Du coup, il a promis aux petits commerçants et aux industriels de leur apporter un soutien financier. Et il n'a pas manqué d'exhorter les citoyens à se soumettre activement à un test de dépistage, même s'ils ne présentent pas de symptômes. Et décidément, le nombre de patients supplémentaires a dépassé la barre des 1300 pour la première fois depuis l'apparition de l'épidémie dans le pays, en s'élevant à 1316, c'est-à-dire 1236 domestiques et 80 importés. Côté vaccination, la part des primo-vaccinés par rapport à la population s'élève à 30,2% et celle de ceux qui ont reçu l'ensemble des doses nécessaires à 11%. Sur fond d'explosion des contaminations, le ministère de l'Éducation projette d'appliquer les cours à distance dans tous les établissements scolaires dès le 14 juillet à Séoul et dans sa couronne. Cependant, des cours en tête-à-tête ou à trois seront octroyés dans les écoles spécialisées, comme celles pour handicapés. Et la garde d'enfants d'urgence est également permise dans les écoles maternelles comme primaires. De leur côté, les grandes entreprises du pays ont-elles décidé d'élargir la part du télétravail et de dissuader leurs employés d'avoir des rencontres privées ou des repas collectifs. Par exemple, tous les salariés de la maison mère du groupe SK travailleront à domicile dès la semaine prochaine, idem pour 50% du personnel des filiales du groupe LG et 60% de ceux du groupe Lotte. Sans tarder, Samsung Electronics et le groupe Hanwha leur ont emboîté le pas. Passons à l'actualité internationale. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, a finalisé hier la composition d'une équipe internationale d'experts chargée d'inspecter l'opération controversée du Japon qui prévoit de rejeter en mer les eaux contaminées de sa centrale nucléaire accidentée de Fukushima. Un Sud-Coréen fait partie des 11 spécialistes de ce groupe. Il s'agit de Kim Hong-seok, un grand spécialiste dans l'analyse et l'évaluation des substances radioactives. Il est à la fois chercheur à l'Institut coréen de sûreté nucléaire et professeur à l'Institut des sciences et technologies avancées, le KAIST. Le gouvernement s'engage désormais à déployer tous ses efforts afin de faire prouver objectivement et effectivement toute la procédure de déversement des eaux à travers l'équipe d'experts de l'agence de Vienne. Dans la foulée, l'exécutif envisage de renforcer ses mesures de surveillance maritime et de contrôle des produits halieutiques. Le département d'État américain a qualifié le piratage informatique nord-coréen de cybermenace importante contre laquelle la communauté internationale doit coopérer activement. Ces propos ont été tenus jeudi par son porte-parole Ned Price lorsqu'il a été interrogé sur la dernière opération malveillante que la Corée du Nord est soupçonnée d'avoir orchestrée contre un organisme sud-coréen spécialisé dans la recherche nucléaire. Pour rappel, à Séoul, le Service national du renseignement, le NIS, a rapporté un peu plus tôt le même jour à la commission compétente de l'Assemblée nationale que l'Institut de recherche de l'énergie atomique de Corée, le KERI, aurait été exposé à une cyberattaque présumée de Pyongyang pendant 12 jours au premier semestre. Le KERI a fait savoir que l'ampleur des éventuels dégâts n'avait pas encore été établie jusqu'à présent. Ned Price a affirmé que les cyberactivités malveillantes de Pyongyang menaçaient les États-Unis, leurs alliés ainsi que le reste du monde et de souligner qu'il est vital pour la communauté internationale, les défenseurs des réseaux et le grand public de ne jamais relâcher sa vigilance et de coopérer ensemble contre la cybermenace du pays communiste.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
On en vient à l'économie. La production de batteries présente un enjeu majeur, notamment pour la voiture du futur et pour la fabrication de produits électroniques de pointe. Les entreprises sud-coréennes du secteur concerné ont décidé d'investir d'ici 2030 au total près de 30 milliards d'euros dans l'industrie des piles secondaires. Le gouvernement a promis d'apporter son soutien aux investissements privés afin que la Corée du Sud puisse s'imposer comme le leader mondial des batteries. Pour cela, il a prévu de promouvoir des projets de recherche et développement de grande envergure en accordant des avantages fiscaux sans oublier des coups de pouce financiers. Ces mesures ont été annoncées hier lors du rassemblement visant à rendre compte de la stratégie K-Batterie organisée sur le site de l'usine 2 de LG Energy Solution en présence du président de la République. L'exécutif a décidé de désigner les technologies clés des batteries comme des technologies stratégiques nationales et d'octroyer d'importants crédits d'impôt à hauteur de 50% au maximum pour la R&D et de 20% pour les investissements dans les équipements. Il a prévu de former plus de 1100 professionnels par an dans ce secteur. Avec la stratégie K-Batterie, le pays du matin clair espère réaliser d'ici 10 ans un chiffre d'affaires annuel de 122 milliards d'euros pour les batteries made in Korea. Le décret réglementaire de la loi sur la punition des catastrophes graves a été publié aujourd'hui. La loi, adoptée au début de l'année, entrera en vigueur à partir de janvier prochain. Tout d'abord, le texte classe dans 24 catégories les maladies professionnelles considérées comme catastrophes industrielles graves, à savoir l'intoxication aiguë aux matières chimiques, le manque d'oxygène ou l'insolation. Le gouvernement a expliqué avoir inclus les pathologies dont la causalité est claire et qu'il est aisé pour les employeurs de prévenir. Les routes, les rails et les ponts ainsi que les établissements à usage public tels que les bibliothèques, les crèches et les institutions de retraite pour seniors sont également couverts par ce règlement. Mais les marchés traditionnels, les parkings ainsi que les bâtiments à démanteler en sont exclus et ce pour ménager les petits commerçants. D'après la loi en question, les PDG et les chefs des établissements concernés sont passibles d'une peine de prison supérieure à un an ou bien d'une amende pouvant s'élever jusqu'à 1 milliard de won s'ils ne s'acquittent pas pleinement de leurs devoirs en matière de sécurité et de santé publique. Le gouvernement envisage de finaliser ce décret d'ici le 23 août prochain. On revient sur l'affaire liée au suicide d'une sergente de l'armée de l'air victime de harcèlement sexuel. L'équipe conjointe d'investigation du ministère de la Défense vient d'annoncer les résultats à mi-parcours de son investigation ouverte il y a un mois. Dans les détails, la défunte sergente Lee a été amenée à se donner la mort étant donné que les agressions dites indirectes, dont des menaces, se sont poursuivies sans que la victime n'ait été protégée comme il se doit par l'armée, bien qu'elle ait porté plainte à plusieurs reprises. Les investigateurs ont interpellé un total de 22 individus, 10 d'entre eux, y compris le sergent Jang, qui est l'agresseur principal, et deux supérieurs de la victime, soupçonnés eux d'être les auteurs d'agressions indirectes, ont été traduits devant la justice. Ces trois hommes ont été placés en détention provisoire. Par ailleurs, l'équipe compte demander des sanctions contre 16 cadres de l'armée de l'air. Et on termine avec un mot de culture. La 25e édition du Festival international du film fantastique de Bouchon, le Bifan, a débuté hier sur fond de recrudescence épidémique. Malgré le relèvement du niveau de distanciation sociale dans la région de Séoul, les organisateurs ont décidé de maintenir les projections de films en présentiel comme prévu initialement. Et néanmoins, comme les heures d'ouverture des établissements à haute fréquentation sont limitées à 22h, les organisateurs envisagent de modifier le calendrier des séances nocturnes. En contrepartie, ils se sont engagés à renforcer les mesures préventives dans les salles de projection. Ainsi, les spectateurs peuvent recevoir un auto-test avant leur entrée s'ils le souhaitent, mais ils seront obligés de se soumettre à la prise de température, à la désinfection des mains, ainsi qu'à une douche d'air. Enfin, seuls 50% des sièges sont disponibles. Cet événement cinématographique, l'un des plus importants du pays, se déroule jusqu'au 18 juillet. Au total, 257 œuvres provenant de 47 pays seront présentées. C'est la fin de ce journal présenté par Thierry Laplanche. Merci de votre fidélité et bon week-end à tous.